Double Face, Valérie Ogier.
Invité de Double Face ce dimanche, Noam Yaron. Il a nagé dans la Méditerranée 191 km, 102 heures passées dans l'eau. Alors, on l'entend hein, déjà votre parcours, ce sont des défis successifs, une passion commune pour l'eau. Mais là, pour la traversée de la Méditerranée, est-ce qu'il y a quand même un moment, un déclic qui se fait en vous disant « bon, bah, maintenant, je pars faire cette traversée ». Donc théoriquement, à la base, l'idée, c'était Calvi, Monaco, à la nage.
Exactement. Donc l'idée, elle est née après ce triathlon, en fin 2023, où je me suis dit... Aujourd'hui, voilà, on a fait le tour de nos lacs suisses qui sont incroyables, mais je pense que j'ai l'expérience d'aller tenter vraiment de dompter la Méditerranée, qui est connue hein, pour être une mer difficile à naviguer, comme le lac Léman d'ailleurs. Donc effectivement, on est parti le lundi 11 août, deux jours après être arrivé à Calvi. Donc nos bateaux sont arrivés vraiment le jour avant le départ. On n'a même pas eu le temps de faire une répétition générale de quoi que ce soit. On a dû se lancer tête baissée à 7h50, plus précisément le lundi 11. Et ensuite, s'en est suivi voilà, 5 jours et 4 nuit, pour être précis, de traverser non-stop, c'est-à-dire sans sortir de l'eau, jour et nuit, les animaux, les méduses, les vents, les courants, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Nous, on a fait 102 heures, donc imaginez la différence entre le record précédent. Donc, il y a vraiment plusieurs, aujourd'hui, discussions avec le Guinness World Records, qui est en charge d'homologuer cette traversée, qui n'est plus une traversée, puisque j'ai pas atteint Monaco, mais une nage. C'est la seule différence. Et puis, on a un organisme en fait spécialisée dans la natation en eau libre qui s'appelle la World Open Water Swimming Federation, qui en fait elle s'occupe de vérifier qu'on a bien suivi les règles comme il faut et qui est en lien direct avec justement le Guinness pour essayer justement de voir dans quelle catégorie, bien vérifier que personne d'autre a fait un défi similaire dans ces conditions.
Que personne ne vous a aidé pendant cette nage.
Exact, mais je m'en rends compte maintenant qu'après à quel point c'est fou ce qu'on a réussi à faire avec mon équipe, et je parle beaucoup de on parce que...
C'est ce que j'allais vous dire,
voilà,
on a nagé 104 heures. On fait surtout vous quand même.
Alors j'étais tout seul dans l'eau, à certains moments j'ai ma copine qui m'a accompagnée, ma copine que j'ai rencontrée quand j'avais 8 ans en nageant, c'est aussi une ancienne nageuse, et du coup elle a surmonté sa peur du fond et de la nuit. Elle est venue nager aussi avec moi, on va dire à côté. Elle n'a pas le droit d'être devant pour des raisons de drafting, etc.
Elle n'a pas le droit de vous toucher.
Exactement, ouais. Donc on a évidemment respecté toutes ces règles, mais ça a été assez fou de la voir rentrer dans l'eau et puis de voir les photos, parce que moi j'y croyais pas vraiment. Et surtout ce qui est aussi difficile à vivre, c'est les hallucinations. On en a beaucoup parlé. À partir de 48 heures, le cerveau en fait disjoncte complètement, c'est-à-dire il est tellement fatigué qu'il fait des raccourcis pour essayer de rendre le traitement de l'information, des couleurs, des formes beaucoup plus facile. Et au début, c'est juste une ligne d'eau, par exemple, comme dans les piscines, qui était à côté de mon bateau, à côté de laquelle je nageais, qui se transforme en serpent. Puis petit à petit, c'est ma réalité tout entière qui s'est changée. Donc je ne voyais plus rien, c'est-à-dire que je voyais plus le bateau, je ne voyais plus ma ligne d'eau, donc on a dû mettre une lumière en fait lestée au fond pour que je nage par-dessus. C'était la seule information en fait que mon cerveau arrivait à comprendre. Et puis surtout, je ne me voyais pas dans l'eau. Donc quand l'équipage me disait nage, moi je voyais un château, je me voyais dans l'herbe, dans la cour, et il fallait m'expliquer qu'il fallait que je me mette à plat ventre, que je fasse des coups de bras dans l'herbe. Donc c'était fou, tout ce qui était aussi couleur du ciel, la journée comme la nuit. Je voyais par exemple la nuit un énorme arbre en fait en dessus de moi, comme s'il y avait une ombre, parce qu'en fait mon cerveau n'arrivait pas à traiter les étoiles. Qui était toute petite, avec beaucoup d'informations, et du coup disait c'est noir. Donc au lieu de faire tout noir, il s'est dit on va mettre un arbre. Et du coup j'étais à chaque fois en fait à l'ombre d'un énorme arbre qui me permettait, on va dire, de rendre réel le fait qu'il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel. Donc c'est assez fou. Tout ce qui est couleur aussi, la journée, donc évidemment vous avez des nuances de bleu qui sont liées aussi au positionnement du soleil avec les vagues, ça fait des reflets dans l'eau. Et mon cerveau en fait n'arrivait pas à traiter ces informations, donc il se disait on va dire qu'on voit le fond. Donc j'avais l'impression que j'avais le fond à 5 mètres en dessous de moi, avec une espèce de texture de bleu un peu foncé, comme on le voit finalement quand on nage très proche du bord.
Et c'est, du coup, c'est rassurant,
c'est
ça,
très rassurant
par rapport au vide.
Exactement, au vide qui va jusqu'à 2800 mètres encore une fois sur certaines parties du parcours. Donc c'est assez impressionnant. Il y a aussi le son, puisque la nuit en fait il y a toute une vie hein, qui se passe dans la Méditerranée qu'on n'a pas l'habitude de voir, et encore moins en étant baigné au milieu de la mer. Et donc, on entend énormément de bruits sous l'eau, des bruits de baleines, des bruits étranges qui peuvent être vraiment déstabilisants, surtout quand on est un petit morgien qui a l'habitude des lacs sans grands animaux, en tout cas marins. Et puis, quoi qu'on a des silures ici quand même, mais ça reste voilà, vraiment rien à voir avec un rorqual commun, qui est la deuxième plus grande baleine du monde, qui vit en Méditerranée, 27 mètres. Vous l'entendez la nuit, vous ne savez pas vraiment si elle est en dessous de vous, si elle va sortir, si elle est cachée, si elle vous parle. Donc c'est assez fou comme sentiment. On a vu un requin aussi, la dernière nuit, qui est passé entre moi et le bateau, où moi j'ai juste, avec mon état un peu hallucinatoire, vu une ombre passer, je me suis dit, je crois que je ne vais pas me concentrer sur ce que je viens de voir. Et c'est après coup que mon équipe m'a dit, ouais, il y avait un requin à peau bleue, donc qui ressemble à un missile, donc il est assez fin, donc moins impressionnant qu'un grand requin blanc. Ils sont d'ailleurs aussi présents en Méditerranée, il est connu pour être, entre grands guillemets, le plus dangereux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Méditerranée, les requins sont très très menacés par l'homme, justement. C'est plutôt nous qui sommes en fait une menace pour les requins que l'inverse. Et du coup, c'était aussi un objectif de mettre en avant voilà, ces espèces qui ont mauvaise presse finalement, et de se rendre compte qu'ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire. C'est eux qui gèrent en fait tout ce qui se passe en fait à partir d'en haut. Et donc, leur survie est très étroitement liée à notre survie à nous. Et on a tendance à l'oublier.